Il émet plus de CO2 que la nature ne peut le capter. Rase des forêts, construit des routes, surexploite des terres, utilise des produits chimiques et pêche plus que les océans ne le permettent. Je veux parler de l'être humain. Et ses excès ont pour conséquence le déclin de la biodiversité. Les études le montrent d'ailleurs. La chute vertigineuse des populations d'espèces animales et végétales à travers le monde n'a cessé de s'amplifier ces dernières années. On parle même de 6e extinction de masse. Alors, pour compenser ces effets dévastateurs et tenter de limiter la casse, des initiatives voient le jour. C'est notamment le cas de la Grande Muraille Verte. Lancée en 2007 par l'Union africaine, ce projet de restauration écologique prévoit de planter des arbres sur 8000 km d'ouest en est. Alors, en quoi consiste ce projet? Comment se concrétise-t-il sur le terrain? Et 15 ans après son lancement, quels sont les résultats? Mais surtout, peut-on vraiment sauver la biodiversité grâce à ce type d'initiative? C'est l'objet de cet épisode de La Fabrique du Savoir, saison 2, un podcast réalisé en partenariat avec l'espace Mendès France de Poitiers. Bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde et je reçois trois invités pour parler de ce sujet à l'occasion de l'université de l'EMF dédiée à la Grande Muraille Verte, un congrès qui accueille à Poitiers une cinquantaine de chercheurs africains et européens. Parmi eux, Gilles Bouetsch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes aussi directeur de l'observatoire Homme-Milieu Tesséquéré et vous travaillez sur le projet de Grande Muraille Verte en tant que scientifique. Vous avez d'ailleurs coécrit « La Grande Muraille Verte, une réponse africaine au changement climatique » avec un autre de mes invités, Aliou Guissé, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes botaniste et professeur en écologie végétale à Dakar. Vous êtes directeur de l'observatoire Homme-Milieu également. Et vous vous intéressez en particulier aux plantes de la Grande Muraille Verte. Comment les choisir? Comment permettre leur adaptation? Comment favoriser l'accroissement de la biodiversité? On en parlera ensemble. Et enfin, Martine Ossart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS à Montpellier et vous êtes chargée de la mission Biodiversité et Outre-mer au CNRS. Bienvenue à tous les trois. Donc ensemble, nous allons essayer de comprendre comment l'être humain peut tenter de sauver la biodiversité en prenant l'exemple de cette grande muraille verte. Mais pour comprendre l'enjeu de ce projet, une question d'abord peut-être assez simple et même naïve. Pourquoi la biodiversité est-elle si importante sur Terre? Quel service écologique nous rend la nature? Martine Ossart.
C'est une grande question, mais je pense que les relations entre biodiversité et qualité de la vie et bien-être humain commencent vraiment à faire, émergent, en tout cas dans le grand public. Les scientifiques l'ont déjà dit depuis un certain temps, en parlant de l'écologie de la santé et de toutes les relations qu'il peut y avoir entre un écosystème en équilibre et la diffusion des maladies. Mais je pense que maintenant, grâce à toutes les pandémies, je vais pas la nommer la dernière, qu'on reçoit, on s'aperçoit bien qu'un écosystème en équilibre va permettre d'éviter ces diffusions de maladies, par exemple, à grande profusion. Ça, c'est l'effet direct sur la santé. Il y a aussi l'effet sur le bien-être, c'est-à-dire sortir de chez soi et avoir une nature agréable et sur laquelle on peut se balader, mais aussi trouver des ressources. C'est aussi très important.
Donc, on s'en est aussi rendu compte pendant la pandémie.
Tout à fait.
L'être humain a-t-il trop longtemps oublié qu'il était dépendant de la nature qui l'entoure?
Je crois que c'est un petit peu le fond du problème, et ça date depuis l'industrialisation, où ça s'est vraiment accéléré, et où effectivement il fallait consommer, avoir plus de matériaux à pouvoir exploiter. Et effectivement, ça s'est fait un petit peu au détriment de la nature. Le meilleur révélateur, c'est l'accroissement exponentiel des villes. Je veux dire, les villes, il y a 3 siècles, c'était pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est absolument énorme. Il y a plus de la moitié de la population mondiale qui habite dans les villes. Donc tout ça se fait évidemment au détriment d'une nature qui est de plus en plus exploitée. Et puis là, on sent bien qu'on arrive à des limites.
Aliou Guissé, aujourd'hui, la biodiversité disparaît presque à vue d'œil, en tout cas dans certaines régions. Parfois, on peut entendre, oui, mais ça a toujours existé, c'est une période parmi d'autres, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux gens qui peuvent dire ça?
Il y a effectivement une dégradation de la biodiversité qui se passe partout dans le monde. Et c'est bien dommage. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, on a entrepris de nous mobiliser et de procéder au reboisement et de la mise en place de la Grande Muraille Verte pour rétablir les choses. D'abord pour la biodiversité d'une part, pour lutter contre la désertification d'une autre part, mais aussi pour essayer de réduire la pauvreté au niveau de ces populations. l'action locale.
Justement, on va rentrer dans le détail parce que ce podcast est consacré à la Grande Muraille Verte. Donc concrètement, on est sur 8000 km de reboisement entre, en gros, le Sénégal et Djibouti. Comment ça se passe concrètement? Comment est né ce projet? Pourquoi? À quelle date? Qui en a eu l'idée?
Alors, c'est pas la première fois qu'on a ce projet. Il y a toujours eu des volontés de reboiser. Il y en a eu en Algérie, il y en a eu en Égypte, il y en a eu en Chine. Simplement, le Sahel est une zone assez fragile, coincée au sud du Sahara, donc craignant toujours une désertification avançante et la détruisant.
On a des chiffres par rapport à ça, sur la désertification? On la constate ces dernières années, elle s'amplifie de combien?
Je ne sais pas si on a des chiffres précis, je ne crois pas, on n'a pas vraiment de chiffres précis. Simplement, quelque chose qui est significatif aussi, c'est la diminution de la glaciation sur les pôles. Bon, on voit bien qu'il y a un réchauffement qui existe, etc. Et évidemment, les zones désertiques entraînent des pénuries d'eau, etc. etc. Et donc, le Sahel est une zone extrêmement sensible. Le problème, c'est qu'en plus de cette chaleur, c'est que les ressources économiques pour les populations vivant dans ces zones-là, ne pouvant pas faire d'agriculture, sont obligées de faire de l'élevage, et l'élevage amplifie encore la désertification de ces zones.
Est-ce que c'est cette zone donc, du Sahel dont on parle, c'est en quelque sorte, là vous travaillez sur la Grande Muraille Verte et donc sur cette expérience en quelque sorte de reboisement, est-ce que c'est un laboratoire le Sahel, c'est vraiment une zone caractéristique dont l'expérience pourrait être ensuite déplacée ailleurs?
Bah, je pense oui qu'on peut parler d'une expérience dans un laboratoire, comme on dit, à ciel ouvert. Je pense qu'il y a, et de toute façon, la Grande Muraille, comme vous l'avez dit, c'est plusieurs pays. Je pense qu'il y a aussi une diversité des pays, une diversité des cultures. Je pense que chaque pays a un peu sa façon, même si évidemment le grand thème, on reboise la grande muraille, mais chaque pays a un peu sa façon de faire en fonction des sociétés, du foncier, etc., de la diversité. On ne va pas planter les mêmes arbres au Sénégal qu'on va planter en Mauritanie ou en Éthiopie, enfin du moins pour certains. Et donc, je pense qu'il y a toute cette diversité qui est aussi intéressante et c'est ça qui sera aussi un laboratoire, c'est de voir comment, selon les initiatives de chacun, en fonction des espèces choisies, en fonction du contexte local, ça marche ou ça marche pas.
On pourra éventuellement dupliquer dans d'autres pays.
Bien sûr.
Aliou Guissé, donc ce projet mobilise 11 pays de la bande sahélienne. Est-ce que vous avez des exemples justement de ce qui est fait, comment on replante, qu'est-ce qu'on replante, ce que ça apporte à chaque pays?
Alors, il faut dire que dans un premier temps, pour choisir les espèces, nous avons fait un grand colloque international où nous avons invité des chercheurs issus de divers pays. Pratiquement, une bonne partie des pays représentés dans le monde étaient donc là. Et nous sommes partis donc sur une discussion très globale où chacun apportait en fonction de ses connaissances et de son expérience. Mais disons que au finish, le choix s'est fait sur un certain nombre d'arbres qui ont été choisis sur deux critères. Le premier critère, c'est des critères qui ont été menés à partir d'enquêtes chez les populations locales pour leur demander, mais s'ils avaient à choisir un arbre autour de leur maison, quelles sont les espèces qu'ils allaient choisir en fonction, évidemment, de plusieurs critères. Ensuite, nous avons donc eu cette liste assez exhaustive de ces espèces et ensuite, nous en avons choisi quelques-unes qui étaient les plus citées pour essayer de faire des expériences au labo et en fonction aussi des connaissances et de leur capacité écologique, nous en avons choisi à peu près 7. Ce sont les 7 qui étaient les plus adaptés dans un climat aussi hostile que la zone sahélienne. Et donc, nous les avons retenus parce qu'elles avaient aussi une plasticité écologique, c'est-à-dire une capacité de s'adapter beaucoup plus large. Et c'est sur ces deux critères-là que nous avons choisi un certain nombre d'espèces végétales que nous avons commencé à reboiser au Sénégal et que nous avons recommandé aussi aux autres pays qui sont dans la zone sahélienne. Il y a quand même quelques modifications qui vont être dues certainement à la texture du sol qui n'est pas la même et qui fait qu'effectivement les espèces peuvent changer d'une zone à une autre, mais de manière mais vraiment assez grossière. Ce sont ces espèces, ce sont celles qui s'adaptent le mieux, n'est-ce pas, aux contraintes climatiques, en l'occurrence eau et température.
Alors, Alors, on parle de replantation d'arbres, en tout cas de plantation d'arbres, mais il y a tout un système qui met en place aussi des systèmes d'irrigation, de fixation des dunes, des terrasses, etc., pour permettre à la fois l'agriculture, mais aussi d'impliquer finalement les populations. C'est un système global qui est mis en place.
Je crois que c'est des systèmes justement au cas par cas, en fonction du contexte et du système écosystémique, parce que il y a aussi les populations qui ont leur mot à dire, qui ont leur pratique, qui ont leur tradition, etc. Et ben, on fait pas de l'agriculture partout, hein, dans le Sahel. Il y a des endroits où c'est pas tellement possible. Ce qui crée aussi des tensions entre les endroits où on peut faire de l'agriculture et les endroits où il y a de l'élevage. Hein, c'est un peu les barbelés dans la prairie. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se passe en ce moment, c'est les conflits armés au Sahel. Et c'est vrai que malheureusement, sur les 11 pays sahéliens, il y en a quoi? Il y en a 8 qui sont en conflit armé, donc c'est difficile. Et c'est pour ça que le Sénégal est intéressant, parce que le Sénégal sert un petit peu de vitrine. Ce qu'on y fait va montrer des choses aux autres, je dis pas qu'ils vont faire la même chose, mais ça va leur montrer des choses. Et à part le Sénégal, il y a un petit peu la Mauritanie, il y avait eu un peu le Tchad, puis là ça a un petit peu plongé, donc c'est quand même très très difficile. C'est vrai que c'est pas facile, hein, entre le climat, les troupeaux et les conflits armés, cette grande muraille, il faut vraiment s'accrocher pour qu'elle avance.
On reviendra sur tous ces paramètres-là, justement. Quand on parle de replanter des arbres, il y a souvent besoin d'eau, un minimum, ce qui est une problématique, là aussi, en Afrique. Comment on fait pour planter des arbres sans eau?
On essaie de faire de telle sorte que, d'abord, on adapte chaque espèce par rapport aux contraintes, c'est-à-dire par rapport à la texture du sol. Il y a des espèces qui sont beaucoup plus adaptées dans les zones sableuses, d'autres dans les zones argileuses, et ainsi de suite. Donc, quand on parle avec ces espèces, on fait d'abord une pépinière, permettant à ces espèces d'avoir déjà une certaine taille, une certaine maturité, pouvant leur permettre d'être un peu plus autonomes vis-à-vis de l'eau. Ensuite, nous reboisons pendant la période hivernale. Quand je dis hivernale, c'est l'hivernage chez nous. L'hivernage, ça veut dire donc la saison pluvieuse. Et pendant cette période, tout commence au mois d'août. Le mois d'août correspond dans la zone sahélienne à la période où il y a les plus grandes pluies. On a maintenant des techniques où, pour garder l'eau au niveau de la zone, on fait des sillons, n'est-ce pas? Et ces sillons font que, lorsque l'eau arrive, cette eau est emprisonnée pendant quelque temps, et les trous dans lesquels ces plantes vont être mises sont donc, c'est en ce moment, c'est fait dans les sillons. Maintenant, nous avons rajouté encore une autre technique, c'est que nous mettons ce qu'on appelle les pluies solides. C'est des substances qui sont là et qui puissent, qui vont donc capter l'eau et qui peuvent prendre pratiquement jusqu'à 5 fois le volume en eau. Et tout ça aussi, ce sont des techniques sur lesquelles on essaie de réfléchir. Celle-là, nous l'avons commencé déjà l'année dernière pour améliorer le taux de survie de ces plantes-là.
Quand on parle de replanter des arbres, on a une notion du nombre d'arbres justement qui sont replantés?
Pour le Sénégal, c'est 2 millions de plants, mais ce n'est pas 2 millions d'arbres, attention. Hein. On ne plante pas des arbres entiers, on plante
des petits plants qui ne vont pas tous survivre peut-être.
Qui ne vont pas tous survivre. Mmh. Le taux de survie à Liou, c'est quoi? C'est 50% à peu près?
On est autour de 50% dans certaines zones qui sont moins hostiles, mais dans d'autres zones, on peut monter des fois jusqu'à 68%. Exceptionnellement, quand il y a vraiment un suivi sérieux et quand le bétail ne passe pas derrière nous aussi pour les
grignoter. Les manger. Quand vous dites un suivi sérieux, ça veut dire quoi? Il y a des équipes dédiées qui vont justement faire ce suivi-là, qui replantent
éventuellement. Disons que quand je parle de suivi sérieux, c'est que à chaque fois que l'on reboise, on met un grillage pour protéger. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des éco-gardes aussi qui sont là, qui protègent, je veux dire, qui surveillent le site. De telle sorte que, quand les conditions sont assez bonnes, je veux dire, il n'y a pas de divagation de bétail, les grillages sont posés à temps, les éco-gardes surveillent aussi sérieusement. Là, nous avons des fois des taux de survie suffisamment élevés en zone sahélienne. Mais même si c'était 30% seulement dans la zone sahélienne, c'est déjà un résultat assez correct.
Martine Ozart, quand on parle de grande muraille verte, ça peut laisser penser que ce sera une barrière un peu infranchissable. Mais finalement, ce n'est pas le but. Enfin, les animaux peuvent aussi franchir ces murailles. Enfin, ce n'est pas une frontière.
Quand on va voir la grande muraille pour la première fois, on réalise que ce n'est pas une muraille, ça c'est sûr. Et que c'est là, ce qu'on discutait ces derniers jours, c'est une mosaïque. Mosaïque justement assez diversifiée, mais c'est pas, Enfin, voilà, c'est des tâches arbustives avec un certain nombre d'individus et sur des espaces. Mais c'est pas non plus une muraille.
C'est pas une ligne droite sur laquelle seraient plantées des arbres.
Non. Loin de là. Mais oui, le mot mosaïque va très bien, correspond bien à ce qu'on voit. Et aussi, parce que bon, évidemment, c'est pas la plaine de la Beauce. Et il y a des reliefs, même si c'est du micro-relief. Et il y a les sillons qui ont été creusés. Donc oui, cette idée de mosaïque correspond beaucoup mieux à ce qu'on voit, en tout cas, sur le terrain.
La dégradation des terres, lorsqu'elle est observée, elle peut s'expliquer par la pression aussi démographique, mais aussi par les systèmes agro-pastoraux, on en parlait tout à l'heure. Comment on fait pour planter à la fois des arbres et de l'autre côté permettre aussi l'urbanisation, l'élevage et,
L'urbanisation, peut-être pas, mais l'élevage, mais c'est une contradiction et c'est effectivement très très complexe. Ce que je voudrais quand même rappeler historiquement, c'est qu'il y a un siècle, la forêt sahélienne était, disons qu'elle a perdu 80% de sa masse en un siècle, à cause justement du fait que avant les gens ne venaient dans cette zone-là uniquement au moment de la mousson, quand il y avait de l'eau, avec les mares temporaires, et puis ils repartaient. Maintenant, ils restent en permanence parce qu'il y a eu des forages, donc ça a dégradé complètement l'écosystème forestier. Et donc, ce qu'on essaye simplement, c'est de remettre finalement la forêt telle qu'elle existait il y a un siècle, mais il faut planter 80% des arbres qu'il y a actuellement. Et là, il y a une pression justement du bétail qui fait que c'est quand même très, 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 très difficile.
En question très naïve, si l'homme n'intervenait pas, la nature ne pourrait pas revenir toute seule. Après, c'est tout un schéma global, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut diminuer certaines activités, il faut protéger les arbres existants, etc. Mais
oui, vous avez
si
raison.
Rien ne se passait dans des dizaines d'années...
Oui, si ça restait en l'état avec la pression anthropique qui continue à s'accroître, surtout qu'on fait de nouveaux forages, donc il y a plus d'eau, donc on peut avoir plus de bêtes, c'est sûr que la forêt serait complètement dégradée. C'est pour ça que la Grande Muraille a quand même une utilité relativement importante, mais ce n'est qu'un sillon dans un Sahel qui est quand même bien, bien endommagé.
On voit que là, le climat évolue très vite, malheureusement. Dans les espèces que vous avez choisies, végétales, les 7 espèces que vous avez choisies d'arbres, est-ce que vous avez aussi anticipé ça?
Alors, ces espèces-là, nous les avons choisies parce que tout simplement, les enquêtes ont montré que ces espèces étaient là déjà en majorité. Mais surtout, ces espèces les intéressaient parce qu'ils les utilisaient. Aussi bien sur le plan alimentaire, médicinal, cosmétique, etc. etc.
Mais est-ce qu'on peut imaginer que dans 30 ans, ces espèces-là pourront survivre à, je ne l'espère pas, mais 3 degrés de plus dans le désert, par exemple?
Oui, 3 degrés de plus dans le Sahel, ce n'est pas trop grave. C'est sérieux, évidemment. Mais on espère, on pense effectivement que, puisque je vous ai dit que ces espèces-là avaient une valence. La valence, c'est la capacité, c'est l'échelle dans laquelle, justement, une espèce peut survivre. En augmentant la température de temps, en diminuant, par exemple, les pluies de temps. Donc, ça donne, justement, une gamme, une échelle. Et on pense qu'effectivement, dans même au-delà de 30 ans, une fois qu'elles s'installent, je pense qu'elles pourront survivre, à condition évidemment de ne pas augmenter aussi la pression anthropique. Voilà, il faudrait qu'un équilibre soit trouvé. Pour la pression climatique, on n'y peut rien, évidemment. On observe les choses, on les décrit, mais on peut quand même, là où on peut agir, c'est peut-être soit d'encourager les gens à diminuer peut-être le bétail, donc diminuer la pression aussi. Mais ça va être extrêmement difficile parce que connaissant ceux qui sont là, donc les peuls, qui ont pour prestige, enfin, leur honneur, c'est d'avoir le plus de bétail. Donc leur demander de les réduire, ce ne sera pas du tout évident.
Alors, en plus de stopper le désert, ce projet a un but finalement socio-écologique. Vous parliez tout à l'heure à Martine Osser d'écologie de la santé. Ça améliore les conditions de vie, de santé de la population. Il doit permettre notamment, j'imagine, de lutter contre la sécurité alimentaire, contre la paupérisation. Est-ce qu'on peut parler d'un projet global de croissance verte?
pour moi, la Grande Muraille Verte, c'est aussi un très bel exemple hein, qu'on vend pas assez dans ce sens-là. C'est une solution fondée sur la nature. Et en ce moment, donc avec toutes les appels qu'on a sur les solutions fondées sur la nature et tous les gens qui prétendent en faire, je pense que la Grande Muraille Verte, ils disent pas assez qu'ils en font et qu'ils en font très bien parce qu'ils ont les études en amont. Ils ont pas décidé de planter comme ça. Ils augmentent énormément la biodiversité parce que évidemment, l'arbre va permettre aussi des graminées de s'installer en dessous, et donc plus particulièrement parce que c'est ça qui m'intéresse, mais va permettre aussi à plein de nouveaux pollinisateurs, à des insectes de s'installer, et donc plus qu'une plantation, on va restaurer tout un écosystème, et c'est ça je pense qui est aussi important. Et dans cette restauration, on va retrouver des plantes, enfin Aliou est bien plus spécialiste que moi sur les usages des plantes, il y a des tas de plantes que les gens vont pouvoir réutiliser pour leur consommation ou pour différents points. On va avoir du fourrage pour faire, et donc je pense qu'aussi Gilles a été aussi avec Aliou à l'origine de ces jardins alimentaires que les femmes ont pu installer autour des villages grâce aussi à la Grande Muraille Verte. Donc je pense que ça c'est aussi...
C'est l'agence surtout, puisque oui. Nous, on n'a pas mis en place les jardins. On
c'est
a
toi
suivi
qui m'en a parlé.
Par contre, des jardins sur la vie des gens, ça c'est extrêmement important. Je voudrais revenir là-dessus un petit peu sur l'écologie de la santé. C'est vrai que la mise en place de cette forêt va donner beaucoup plus de produits végétaux, des fruits entre autres, des choses pour se soigner, etc. Mais surtout, ça permet aussi de lutter contre la famine. Ça a sauvé pas mal de gens. Et d'autre part, une des grandes pathologies qu'il y a dans le ferlot, c'est les maladies respiratoires, parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de poussière. Et c'est vrai que si on arrive à humidifier un peu plus le sol, ça fera tomber un peu les poussières. Donc, ce sera une lutte contre les maladies respiratoires, qui touchent quand même 30% de la population.
On parlait tout à l'heure de convaincre, en tout cas, les populations. Comment vous faites ? On parlait tout à l'heure de l'élevage, par exemple. Comment on convainc un habitant qui a effectivement un élevage, qu'il a l'habitude d'aller faire brouter à un endroit et lui dire, bon, bah, en fait.
C'est pas facile, mais disons, ça revient encore sur la définition même de la Grande Muraille. C'est-à-dire que, au début, tout le monde pensait que c'était quelque chose de compact. Or.
On parlait de mosaïque tout à l'heure.
Un élément, bien sûr, c'est des mosaïques. Un élément important, c'était d'abord pour permettre aux troupeaux de passer. Donc, on ne pouvait pas faire une bande comme ça, coller étanche et tout ça. Donc, il y a déjà ce compromis-là. La deuxième chose, c'est qu'on les associe aux décisions que nous prenons régulièrement. Et aussi, on les invite aux restitutions. Chaque année, nous faisons une restitution sur les résultats que nous avons obtenus. Et ils se rendent compte, effectivement, qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages. En l'occurrence, les parcelles qui sont reboisées, on met des clôtures. En mettant des clôtures, on permet à la strate herbacée de pouvoir être préservée pendant au moins toute la saison. Et à la fin de la saison, quand ces strates herbacées atteignent leur maximum, évidemment, on permet aux populations locales de venir les récolter pour leur fourrage. Donc, ils étaient obligés chaque année, pendant cette période-là, où il n'y a plus de la strate herbacée, de pouvoir pratiquement partir, parce que ce sont des populations qui sont des nomades, donc qui transhument. Donc, cela a fait donc, déjà qu'ils ont des avantages en prélevant cette strate herbacée. Certains l'utilisent pour leur propre bétail, mais d'autres en ont déjà en surplus et ils les vendent. Et ça fait des revenus importants. Ça, c'est une manière aussi de les convaincre, pour leur montrer qu'en fait, la muraille, mine de rien, ça a aussi des intérêts, non seulement sur la biodiversité, comme elle le disait, mais aussi sur leur niveau de vie.
On n'est pas sur un projet écologique totalement hors sol, vraiment ancré auprès des populations. Si on essaye de dresser le bilan, c'est à peu près 15 ans que la Grande Muraille Verte a été lancée. Est-ce que ça traverse 11 pays. Forcément, j'imagine qu'il y a des expériences un peu éparses et un peu différentes. Quel bilan vous vous dressez, Gilles Botch ?
Au Sénégal, ça marche relativement. Nous, on suit ça de près. Dans les autres pays, pour des raisons géopolitique, c'est plus que compromis. Mais en tout cas, ce qui ressort du Sénégal, et c'est dû, on travaille dans un endroit qui est particulièrement difficile, eh ben, c'est quand même prometteur pour l'avenir. On a réussi, comme a dit Aliou Guissé, à convaincre les populations du bienfait de cette démarche. Et comme on a les populations plutôt avec nous, ça se passe bien. Il y a d'autres endroits, comme par exemple en Algérie, où vous avez fait les expériences de barrières vertes, où vous avez les populations contre eux, ben, ça n'a pas marché.
Et comment on convainc les pays eux-mêmes, et j'imagine les dirigeants de ces pays, de se lancer dans de tels projets ?
Ben, je crois qu'ils sont tous d'accord, ils ont tous envie, mais les choses, ils ne contrôlent pas tout.
Et ça coûte cher aussi. D'où viennent les fonds qui permettent de financer la Grande Muraille Verte et comment sont-ils utilisés ?
Alors, au début, les fonds, ce sont les États eux-mêmes. Ensuite, maintenant, il y a l'UA, l'Union africaine, qui a vu le projet et qui trouve que c'est quelque chose quand même d'intéressant. Ensuite, maintenant, après, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des partenaires comme la Banque mondiale, comme la BAD, qui est une banque africaine pour le développement, comme il y a aussi des partenaires maintenant qui sont même issus des pays développé. La France aujourd'hui, avec l'accélérateur qui est mis en place, est aujourd'hui un partenaire, ma foi, tout à fait fiable, qui s'est engagé. Donc voilà, au début, donc c'était les États, c'est normal parce que les États avaient pris l'engagement de faire ça, bien que à l'origine, le projet était un projet panafricain. Mais comme a dit Gilles, il y a des problèmes. Il y a aussi des pays qui sont en guerre, pratiquement parmi les 11, 8 aujourd'hui sont en guerre. Donc là, il y a des blocages. Mais je dois dire que quand même, plus on avance, plus il y a des financements. Et des financements qui sont proposés. Et les chercheurs aussi se regroupent, essaient de faire des projets de financement sur des thématiques bien précises. Les usages, par exemple, l'importance des plantes, etc., etc., qui sont donc financés au fur et à mesure que ça avance.
Martine Ossert, ce projet nécessitait finalement que de nombreuses disciplines travaillent entre elles. Il y a des chercheurs en médecine, en zoologie, microbiologie, écologie. C'est ça aussi l'écologie de la santé ?
Tout à fait. L'écologie de la santé ne peut marcher que si c'est de l'interdisciplinarité.
Et c'est pas compliqué de faire travailler tous ces chercheurs ensemble ?
Bien sûr. Mais je pense que bon, là où on est dans l'Institut écologie-environnement au CNRS, c'est l'essence même de cet institut qui a été créé donc, il n'y a pas si longtemps que ça, une dizaine d'années. Et justement, en mettant plusieurs disciplines dès le départ ensemble. Parce que l'interdisciplinarité, c'est pas aller chercher son petit copain des sciences humaines parce que d'un seul coup, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'en parler. C'est vraiment la co-construction dès le départ et je pense que la Grande Muraille est aussi un exemple de cette interdisciplinarité dès le départ. Donc c'est pour ça que tous les projets en écologie de la santé au sein de la Grande Muraille verte peuvent marcher et donner des résultats intéressants.
Et si je peux me permettre de compléter ce qu'a dit Martine, donc l'université d'été dans laquelle on est en ce moment travaille de manière complètement interdisciplinaire et on a une réunion extrêmement importante cet après-midi où on a mis en place justement un réseau de chercheurs avec des gens qui plantent la Grande Muraille pour essayer de travailler ensemble et faire avancer les choses plus vite. Je crois que l'accélérateur, c'est nous.
Quels sont les défis pour la prochaine décennie ? Est-ce qu'il y a des incertitudes qui pourraient paralyser ce projet ? On en a parlé des problèmes d'insécurité dans certains pays qui permettent des fois qui ralentissent de temps en temps ce projet-là. Mais quels défis pour la prochaine décennie ?
Je pense que les défis, c'est d'essayer de nous unir de plus en plus, d'essayer de convaincre aussi les décideurs pour leur faire savoir que la recherche est indispensable. Parce qu'on ne peut pas avancer sans la recherche. Donc, c'est aujourd'hui, Gilles l'a dit, on a essayé de mettre aujourd'hui en place quelque chose qui puisse réunir aussi bien les gestionnaires de cette muraille-là avec des chercheurs. Un, pour essayer donc de guider un peu par rapport aux décisions, parce que pour prendre une décision, déjà, il faut savoir quelles sont les conséquences. Est-ce que ça, c'est avantageux ? Est-ce que c'est intéressant ? Nous pensons aussi que avec cette synergie, on peut convaincre les gouvernants aussi pour mettre beaucoup plus de moyens sur cette grande muraille verte-là. Et enfin, permettre aussi à à nos étudiants, chercheurs, nos thésards, les masters, de pouvoir être formés dans des meilleures conditions, justement sur des aspects qui sont concrets et qui nécessitent justement des recherches intéressantes pour pouvoir avancer. À mon avis, ça a l'air. Un exemple concret, c'est que depuis un certain temps, nous avons un insecte qui envahit une des espèces. Or, cet insecte-là, ma foi, on a pu le décrire tout simplement récemment. C'est un insecte qui n'était pas répertorié dans la liste des insectes existants dans le monde. Et le fait de découvrir cet insecte-là, ça fait une avancée phénoménale dans la recherche scientifique. Ça fait aussi, lorsqu'on met les moyens et lorsqu'on partage cette synergie avec les autres pays qui ne le connaissent pas du tout encore, peut-être d'arriver à trouver des solutions. Voilà en fait le défi et l'enjeu.
Vous avez l'impression d'être des scientifiques d'action ?
Ah, complètement. De terrain déjà.
De terrain et d'action, et d'avoir l'impression de faire vraiment progresser les choses et le voir.
Comme sur des sujets comme ça. Je l'ai répété plusieurs fois à Lyon, avec la population aussi, c'est ça, je pense que ce projet tient.
Comme a dit Martine, c'est un laboratoire à ciel ouvert, c'est-à-dire que nous, on n'est pas que sur nos paillasses, etc., mais on va aussi sur le terrain voir ce qui se passe avec les populations. Et ça, c'est très important, parce que les populations, ça s'appelle l'aspect émique, c'est-à-dire les populations ont tout un savoir qui existe sur tout leur environnement, et nous, on a besoin aussi de ce savoir pour comprendre où sont les blocages. Et ça nous aidera à débloquer.
Si vous deviez décrire en un mot ce projet de Grand Muraille Vert, ce serait quoi ? Un projet fou ? Un projet révolutionnaire ? Qu'est-ce que vous diriez ? Peut-être un mot chacun.
Mais on le trouve génial parce que ça fait 12 ans qu'on bosse dessus, donc si on ne le trouvait pas génial, on n'y serait pas, évidemment.
Un mot pour le qualifier, Aliou Guisset ?
Je dirais pas fou, parce que fou, c'est avancer sans être conscient de ce qu'on fait. Donc peut-être un peu témérité, oui, bien sûr, parce qu'au début, quand même, c'était pas du tout évident de se dire que ben mais écoute, j'amène des centaines d'étudiants, je m'engage avec eux pour aller reboiser. Donc il y a quand même un aspect où on est certes téméraire mais aussi conscient, c'est-à-dire en sachant et en aimant ce qu'on fait. Par contre, il faut de la conviction, il faut vraiment bouger, il faut y aller et mobiliser des moyens, des collègues, etc. Et surtout rencontrer les populations locales et discuter avec eux. Parce que un des avantages qui a fait qu'il y a de la réussite, c'est parce que les populations locales étaient partants et ils nous ont accompagnés. Parce qu'il faut savoir, avant même de choisir le site, il faut que les populations locales se prononcent. S'ils ne sont pas d'accord pour installer un site, évidemment, le site ne se fera pas sur place. Mais maintenant, ils ont compris. Maintenant, c'est eux qui nous courent derrière pour nous dire « Mais venez installer ici un site. » Alors qu'au début, ce n'était pas le cas. Et rien que ça, vraiment, ça donne un peu de punch, quoi.
Donc, on est vraiment sur un projet humain. Comment, Martine Assad, vous définiriez la Grande Muraille Verte en un mot, si vous le deviez
Moi, je dirais un projet exemplaire, parce que je pense qu'on a beaucoup de théories sur la façon de faire. Et je pense que la Grande Muraille Verte, outre ce labo de ciel ouvert dont je parlais, c'est aussi un projet exemplaire sur comment arriver à mener une recherche et une action interdisciplinaire en contact avec les populations locales. Je pense qu'on le vend pas assez encore, je dis toujours agile, cet aspect exemplaire, parce que c'est quand même un succès.
Et on compte sur vous.
Avec plaisir. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de cette saison 2 de La Fabrique du Savoir sur lemonde.fr et les plateformes de podcast. À très bientôt.